La Libre Antenne, Sabine Marin.
Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que si le soleil n'était pas dans votre ciel, il était au moins dans votre cœur. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit sur cette libre antenne d'Europe 1 et toute l'équipe vous attend avec plaisir. Frédéric Dervin à la réalisation et Fanny et Kelvin au standard. Pour nous joindre et passer à l'antenne, c'est très simple, vous faites le 3921 et vous vous laissez guider. Et si vous avez envie de participer par SMS, vous tapez le 73921 suivi du mot « nuit » et de votre message que je lirai à l'antenne si ça peut aider la personne qui témoigne. Vous le savez, nous pouvons parler de tout sans tabou et sans jugement sur cette libre antenne. Je suis là pour vous accueillir, vous écouter et quand c'est possible, vous amener sur des pistes de réflexion. Si notre tête est ronde, c'est pour permettre à la pensée de changer de direction. Alors voyons ensemble ce soir quelle direction pourraient prendre vos pensées.
Venez vous confier à Sabine Marin sur Europe 1.
Et c'est avec Emmanuel que je débute cette émission. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Sabine Marin.
Bienvenue à vous.
Merci.
Qu'est-ce qui vous amène alors ?
Mais vous savez, moi ça fait pas longtemps que je vous ai découvert sur votre émission. Oui. J'ai vu qu'on pouvait parler avec la personne qui était à la radio. Et c'est vrai que j'ai présenté, quand on m'a demandé pourquoi je téléphonais, pourquoi je voulais parler, j'ai dit, moi j'ai eu une vie très fatigante depuis que je suis petit et même encore après. Et c'est vrai que j'ai eu des états de méforme dans ma vie et pour moi ça m'ennuie, ça m'ennuie tout au long de ma vie, quoi. Donc voilà, donc je voulais parler de ça parce que c'est vrai que ça peut toucher d'autres personnes parce que c'est vrai que on est pris dans le tourbillon de la vie et qu'on ne vit pas toujours tranquillement comme on voudrait.
Et l'expérience de chacun apporte toujours quelque chose aux autres.
Ouais. Puis parfois, quand on est très très bas, c'est pas facile de se relever. Voilà, donc je voulais vous faire part de ça. Et quand je vous dis que ça fait pas longtemps que j'écoute votre émission, c'est-à-dire que bon, moi je vais parler un petit peu avec vous, mais je vous laisse voir si ça peut vous intéresser ou pas et ce sur quoi vous pourrez en dire. Hein, mais je veux pas non plus passer. Enfin,
tout va bien, Emmanuel.
Ce que je peux en dire, ce qu'on peut en dire.
Voilà. Sentez-vous chez vous, sentez-vous à l'aise. On peut parler de tout ici.
Voilà.
Alors racontez-moi déjà votre enfance. Vous êtes né dans quel type de famille? Ça a commencé comment l'histoire?
Moi, ma famille, j'avais une sœur et mes parents. Une sœur et mes parents et j'ai été élevé par des parents qui étaient au travail et puis qui voulaient que leurs enfants ne subissent pas de mauvaises influences et puis puissent s'en sortir. Mais voilà, mais ça n'a pas été facile, hein, parce que bon, déjà au travail, les parents, ils avaient quand même des difficultés parce que le travail c'est pas évident, hein, quand on a un boulot et d'essayer de s'en sortir. Et puis je voyais bien ça. Et puis c'est vrai que dès l'âge de 7-8 ans, j'étais déjà pas très costaud. Et puis à l'école, bon, moi je m'intéressais, mais que ça devenait pas, ça me dépassait aussi un peu parce que j'ai eu un retard de croissance après. Et puis c'était vraiment pas simple, hein. Vraiment pas simple, et le niveau allait s'élever. Et puis il fallait s'accrocher. Mais c'est vrai que quand on est gamin et puis que les adultes répondent pas forcément aux interrogations qu'on a, aux inquiétudes qu'on a, mais après qu'il faut pousser plus loin et que c'est pas facile, quoi.
Mais est-ce que vos parents étaient tout de même des parents aimants?
Oui,
vous n'avez pas été maltraité.
Il faisait attention.
D'accord.
Il faisait attention à nous. Ouais. Mais vous savez, ils avaient une rigueur dans leur travail et cette rigueur, elle s'appliquait aussi aux enfants, hein, parce que on voyait bien que fallait pas que si eux se donnaient du mal, il faudrait que nous aussi on se donne du mal, quoi. Donc,
voilà. Vous savez quel âge, Emmanuel?
J'ai 54 ans.
Oui, donc là, on parle d'une enfance dans les années 60, quoi.
Fin 65, des années, ouais. Enfin, c'est début des années 70.
Oui, c'est vrai, le temps que vous soyez un petit garçon.
Ouais, ouais, c'est ça. Mais disons que, si vous voulez, moi, le problème que... Je me suis dépensé beaucoup quand j'étais petit, quand même, parce que un peu par moi-même aussi. Et c'est vrai que je me fatiguais pas mal. Et c'est vrai qu'après, quand je suis rentré dans la vie active, ben j'étais déjà un peu émoussé. Et puis même avant de rentrer dans la vie active, il a fallu que j'aille au collège, au lycée, que j'aille faire des études. Et tout ça, ça n'a pas été simple. Et c'est vrai que ben j'avais ce problème que je me dépensais dans des choses. Et parce que j'essayais de me donner dans ce que je faisais, mais que ça me fatiguait. Voilà. Et donc, et si vous voulez, c'est aussi l'image qu'on donne après, parce que quand on, je veux dire, bon, il y a les gens, vous essayez d'être au quotidien, d'être dans ce que vous avez à faire. Bon, on n'est pas toujours sur des terrains sur lesquels on est très en stabilité, mais on est sur un terrain sur lequel on se donne. Et puis après, vous savez, quand on veut sortir un peu de ce terrain, eh ben si on a, il y a peut-être des gens qui nous attendent aussi ailleurs, mais nous on peut pas répondre quand on est fatigué, on peut pas répondre aux attentes d'autres personnes qui voudraient nous voir peut-être vivre, faire autre chose ou vivre autrement. Donc, et ça, je l'ai connu après.
Alors Emmanuel, j'ai pas tout compris. Ouais. Là, je comprends bien les mots que vous employez, mais quand ça fait des phrases, après, je me perds en route. Ouais. Là.
Disons, si vous voulez, par exemple, quand j'ai commencé mon travail, qu'il a fallu que je me donne à fond dans mon travail, et que je travaillais énormément, je me fatiguais énormément, et ben à la fin des journées, déjà pendant la journée, pendant mon travail, je restais un petit peu de mon côté. Et les gens, ben, voyant aussi que je restais un petit peu de mon côté, eux, ils n'allaient pas trop vers moi, peut-être. Et puis, enfin, c'était. Et puis, à la fin de ma journée, moi, j'avais envie de récupérer parce que j'étais vraiment là, vraiment fatigué. Et puis, ben, je participais peut-être pas à d'autres. À ce que d'autres personnes pouvaient attendre de moi. D'autres personnes qui pouvaient attendre autre chose que. Que sur le terrain du travail.
Vous avez fait quoi comme travail ?
Ben je voudrais pas trop me dévoiler là-dessus parce que si vous voulez, je voudrais pas déprécier mon travail. Alors je vais vous dire, j'ai fait un travail très intéressant qui m'a beaucoup intéressé. Ça a été une force parce que ça m'a permis de tenir. Mais c'est un travail que j'avais à faire très fatigant. Alors pour vous mettre un peu, enfin ça va pas vous mettre peut-être sur la voie.
Je vais vous dire
le domaine dans lequel j'ai travaillé. Le domaine dans lequel j'ai travaillé, c'était le domaine du Stabil. Le Stabil, alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, le Stabil.
Non, je n'aurais pas dû vous poser la question.
Le Stabil, ville, c'est V-I-L. Hein. V-I-L. Oui. Et j'ai enlevé le rat, donc c'est le Stravail. Le Stravail. J'étais dans le domaine du Stravail, c'est pour faire un petit peu d'humour. Et ça fait penser peut-être au film Bienvenue chez les Ch'tis. Puis c'est pour dire Stabil, c'est pour dire qu'au travail, on n'a pas toujours la reconnaissance qu'il faudrait. Quoi. Donc voilà. Mais c'était un travail très intéressant. Mais qui était très fatigant.
Mais il vous a manqué la reconnaissance de qui, là, d'après ce que j'essaie de comprendre ?
Bah, c'est-à-dire que vous savez, au boulot, il faut beaucoup se dépenser. Et puis, on aime son travail, donc ben, on le fait. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément je veux dire, on est un peu seul au boulot. Moi, j'étais dans un travail où il fallait que je me dépense, fallait que je donne de ma personne. Et on attendait 2 mois et bon, je recevais quand même des ordres, mais c'était moi qui devais appliquer les consignes. Et puis si je voyais bien que s'il y avait des défaillances, ça me serait reproché.
Ben comme dans tout travail, me semble-t-il.
Comme dans tout travail. Mais oui, mais c'est vrai qu'en plus quand on a le facteur de la fatigue, qu'on a des journées très fatigantes, ça bouche un peu les perspectives et puis ça. C'est très inquiétant.
Tout ça pour me dire quoi alors, Emmanuel ?
Tout ça pour vous dire que le domaine que tant travailler, c'est pas forcément sain. C'est pas forcément sain que de tant travailler, qu'il faudrait peut-être qu'on puisse travailler moins et mieux, voilà. Et puis que comme ça, on pourrait être moins fatigué à la fin des journées. Et puis aussi s'occuper aussi autrement à la fin de la journée plutôt que de rentrer chez soi et puis de se renfermer et puis de voilà enfin. Moi, j'ai pas toujours eu dans l'idée de. Enfin, moi, je rentrais chez moi. J'étais content de rentrer chez moi parce que j'étais fatigué. Mais j'ai toujours été isolé. Et puis, c'est vrai que j'ai pas. J'ai toujours été un peu. Enfin, voilà. Il a fallu que je vive ma vie comme ça, d'un travail qui était fastidieux, qui me plaisait, mais qui était fastidieux. Mais et si je vous dis tout ça, c'est parce que aussi je veux pas vous saouler, mais moi, ma carrière professionnelle, j'ai eu deux arrêts, j'ai eu des fatigues nerveuses et physiques, et ça a été des moments durs à passer parce que j'ai été arrêté de travailler, il a fallu que je me soigne, tout ça, ça a vraiment pas été facile à vivre. Donc voilà, donc moi je voulais vous dire que quand on a une vie fatigante, c'est sur le long terme que c'est pas évident. Voilà.
D'accord. Bah écoutez, le message est passé, Manuel.
Oui.
Prenez bien soin de vous. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai l'impression que vous en parlez au passé, donc c'est déjà assez fini tout ça.
C'est-à-dire que là je vais peut-être être mis à la retraite là. Donc là,
vous allez pouvoir vous reposer.
Je n'ai pas encore fixé totalement. Mais je pourrais, ouais, et puis aussi m'occuper autrement, et puis être moins soucieux. Moins soucieux, parce que c'est vrai que, c'est ce que je vous disais, quand on voit qu'on se fatigue énormément, et puis qu'on peut caler, on est soucieux, parce qu'on se dit, mince, quand même, on aimerait que ça fille, avoir des perspectives plus réjouissantes, voilà.
Ben j'espère que la retraite va vous en amener des perspectives plus réjouissantes, que vous allez prendre le temps de penser à vous et de prendre soin de vous surtout.
Ah oui, ben oui, c'est sûr qu'on en a bien besoin. Il faut faire attention à sa personne. Ouais. Et puis, moi, j'aime bien prendre mon temps, j'aime bien réfléchir, donc vous savez. Et puis c'est vrai que moi, j'ai été pris un peu dans. Enfin, j'avais des objectifs à tenir, charge de travail qui était importante. Et puis qu'il fallait pas s'arrêter. Donc c'est vrai que moi qui aime bien prendre mon temps, et puis j'ai besoin de calme. Donc dans les mois qui viennent, si j'espère effectivement pouvoir prendre mon temps dans ce que je ferai, et puis aussi vivre dans le calme.
C'est ce que je vous souhaite, Emmanuel. Merci d'avoir appelé.
Oui, d'accord, merci.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Venez vous confier à Sabine Marin sur Europe 1. Heart and not the chain around.
Slave to Love, c'était Brian Ferry.
La libre antenne d'Europe 1. Sabine Marin accompagne vos nuits.
Et c'est Catherine que j'accueille maintenant. Bonsoir Catherine.
Oui, bonsoir. Merci de bien vouloir m'écouter, parler avec moi.
Kelvin me dit que vous êtes toute stressée.
Oui, j'ai le cœur qui bat fort.
Respirez, ça va bien se passer, on va prendre le temps. J'espère que votre cœur bat quand même, heureusement, c'est une bonne nouvelle.
Oui.
Alors, dites-moi ce qui vous amène, Catherine.
Eh bien, je vis un drame perpétuel depuis 6 ans. Je ne vois plus du tout mon fils. Il y a eu une rupture un mois et demi après la naissance de sa petite fille. Oui. Il n'y a eu aucune raison réelle. Du jour au lendemain, il est arrivé à la maison et il nous a dit « Vous n'êtes pas prêt de revoir la petite. » Et il a complètement changé de personnalité.
Ah, alors, on va dérouler la pelote un petit peu, si que j'arrive à comprendre les relations. Est-ce que c'est votre fils unique ?
Oui, unique.
Vous l'avez eu à quel âge ?
J'avais 21 ans.
Vous étiez toute jeune ?
Oui.
Et comment ça s'est passé avec lui, l'éducation, l'enfance, l'adolescence, toutes ces périodes-là ?
Bien.
Bien ?
Oui, on était bien, on s'entendait bien. On vit toujours ensemble avec son père.
C'est ce que j'allais vous demander. D'accord, donc avec un couple stable.
Oui, à moins qu'il y ait des choses qui m'aient échappé, mais dont je n'ai pas conscience. Quoi, parce que,
comme c'est souvent le cas, on n'a jamais conscience de tout, c'est normal. Hein. Mais globalement, pas de traumatisme, pas de violence dans la famille.
Non,
Des parents présents et aimants.
Oui.
D'accord. Et quand il a vécu comment, ses premières histoires d'amour, vers quel âge ?
Bah, ça, je n'ai pas su.
Vous n'avez pas su ?
Non.
Les garçons sont un peu secrets, hein, souvent.
Oui. Je sais qu'il a eu une relation assez éphémère avec une femme qui avait un enfant, mais il a interrompu. Mais j'ai pas eu de détails. Il n'était pas très communicatif sur ses affaires privées.
D'accord. Jusqu'au jour où j'imagine il vous présente.
Oui.
Alors comment ça se passe à ce moment-là ? Il vous en parle avant ? Comment il amène la chose ?
Attendez, je sais. Est-ce qu'il m'en a parlé avant ? Oui, brièvement. Mais quand il est arrivé avec elle, ce qui est étrange, c'est que j'ai eu un mauvais pressentiment.
Ah, la première impression qu'on
dit. Oui. Ouais. Mais très fort, très fort.
Il avait quel âge, lui, à ce moment-là ?
24 ans.
Et elle ?
Un an de moins.
Donc célibataire, sans enfant ?
Oui.
Et qu'est-ce que vous avez ressenti qui vous a fait donner cette impression bizarre ?
Qu'est-ce qui m'a fait ? C'était une intuition, une impression que c'était pas la bonne personne pour lui, quoi. Mais j'avais pas de jugement à apporter. C'était juste une intuition, vous voyez.
D'accord. Concrètement, il s'est rien passé de désagréable ?
Non.
Non.
Mais elle n'était pas agréable. C'était pas une femme agréable. C'était pas une femme qui s'appliquait à entreprendre une conversation. Il fallait pas lui poser de questions. C'était indiscret. C'est pas que mon point de vue à moi. C'est assez général comme point de vue. Mais bon, on l'a quand même accueillie. On a tâché d'être agréable avec elle et de l'inviter, de bien la recevoir.
Vous avez eu l'impression qu'elle ne faisait pas d'efforts, je crois, en vous écoutant.
Oui.
Oui, c'est ça.
Pas d'efforts.
Mais quand
elle s'intéressait pas du tout à nous. Elle s'intéressait pas du tout à la vie de mon fils, même si on voulait lui parler de mon fils.
Petit, des anecdotes,
oui,
des choses.
Non,
en principe, on aime bien ça quand on vient de rencontrer un homme, de savoir un peu.
Ah non, rien du tout.
Ah. Mais quand il vous l'a présenté, est-ce qu'il vous a fait comprendre que c'était vraiment la future mère de ses enfants ? Ou c'était pas forcément aussi clair que ça au départ ?
Eh bien, ça a été très très vite. Elle s'est engouffrée dans sa vie. Parce qu'au départ, si vous voulez, bon, il a d'abord vécu un peu en colocation avec des copains, et puis il a pris un petit logement pour lui. Et il a dû la connaître à ce moment-là. Et elle s'est engouffrée dans sa vie. Là, j'ai été assez stupéfaite.
Elle s'est installée chez lui tout de suite, vous voulez dire ?
Oui.
Ah.
Et à ce moment-là aussi, il y a eu aussi quelque chose d'assez douloureux. C'est que ma mère, donc, enfin sa grand-mère, la grand-mère de mon fils, est décédée en un mois. Elle a eu un cancer, elle a eu une lobotomie, je crois. Enfin, ça a été une catastrophe. Ça a été que de complications en complications jusqu'au décès. Donc, c'était pas du tout annoncé comme ça, ni prévu comme ça. Et ça a été un choc émotionnel aussi, pour tout le monde, mais pour lui aussi, qui était très proche de sa grand-mère.
Mm-hmm.
Donc, c'était au même moment. Et ils se sont installés donc dans ce petit logement. Voilà.
Et lui, à ce moment-là, est-ce que quand même il vous disait « je suis heureux » ou « je suis amoureux » ou rien du tout ?
Il ne disait rien.
Il disait rien.
Mais un jour, j'ai voulu parler avec lui parce que j'avais des doutes.
Ouais.
Et il m'a dit « je l'aime », point.
Bon.
Donc, j'ai pas...
Il a fermé la porte tout de suite ?
Oui.
Donc, un jour, il vous annonce que vous allez être grand-mère ?
Oui.
Et là, qu'est-ce qui se passe alors ?
Mais avant ça, il s'est passé des choses bizarres, parce que de ce logement-là, ils ont déménagé. De ce petit logement-là, donc, qui était tout petit, ils ont déménagé une première fois. Ça a duré un petit moment. Après, ils ont redéménagé. Il y a eu beaucoup de déménagements.
Mais comment,
rapprochés.
Comment ils ont payé tout ça ? Qui a financé tout ça ?
Eux-mêmes.
Tous les deux travaillent ?
Oui.
D'accord.
Enfin, maintenant, je ne sais pas si... Je sais que mon fils a toujours travaillé. Il a toujours... oui. Et voilà, donc il y a eu ce déménagement-là. Et oui, et là, l'appartement était sympa. Il y avait une jolie terrasse. Et c'est là qu'ils nous ont annoncé qu'ils allaient avoir un bébé.
Mm-hmm.
Donc, mon fils a refait l'appartement à peu près à 80% très proprement pour que ce soit sympa, pour que ce soit propre et accueillant. Et
comment vous l'avez appris cette nouvelle-là, justement,
le
bébé.
Comment je l'ai appris ?
Non, comment vous l'avez pris ?
Ah, comment je l'ai pris ? Je l'ai pas mal pris. Hein. J'avais accepté qu'il allait vivre avec cette femme-là. Bon, moi, j'avais pas d'affinité avec elle, mais on choisit pas. Je l'ai pas mal pris. Ils sont venus nous montrer l'échographie.
Mm-hmm.
Je pense que c'est plutôt mon fils qu'elle. Ils m'ont demandé, enfin, je pense que c'est plutôt mon fils aussi, parce que je suis assez couturière, de faire des petits draous. Donc, en fait, ils m'ont laissé, si vous voulez, m'investir affectivement dans l'idée quand même que...
Vous auriez un rôle, quoi.
Oui. Pour ce Noël-là, on avait fabriqué un petit truc aussi décoratif, enfin, qui était mignon, qu'ils ont trouvé mignon. Enfin, apparemment. Et un petit mobile. C'est des petits poissons, comme elle allait naître en mars, le signe du poisson, enfin, bref. Et qu'est-ce qui s'est passé après ?
Parce que là, vous m'avez dit, c'est passé des choses bizarres, mais jusque-là, pour moi, tout est à peu près sur les rails. Ils déménagent, ils attendent un bébé, ils vous l'annoncent, ils vous impliquent.
Oui. Hein. Sauf que quand la petite est née, les reproches ont commencé. Il nous avait dit de venir un jour. On est venu le lendemain. Donc ça, les reproches ont commencé jusqu'au jour où j'ai été accusée d'avoir secoué la petite à la maternité lors de notre visite et après, d'avoir eu des gestes déplacés.
Et pourquoi ils vous ont accusé de ça ? Qu'est-ce qui a pu leur faire ?
Ah mais ça, je ne sais pas. Ça a été un cataclysme total parce que mon mari était là. Ils étaient là. Elle n'avait pas l'air du tout heureuse de notre visite. Hein. Mais bon, il n'y a rien qui s'est passé. Ils sont pas allés chercher. Elle n'est pas allée chercher une infirmière. Elle s'est plainte de rien. Et d'ailleurs, la preuve que je n'ai absolument pas eu je n'ai pas du tout eu de gestes inapproprié, c'est que entre ce jour-là et un mois et demi plus tard où mon fils est venu à la maison donc me dire que qu'on n'était pas prêt de voir la petite, mon fils nous envoyait des mails de temps en temps avec des petites photos et des petits commentaires pour qui démontraient quand même qu'il était heureux d'être papa et puis de partager un petit peu avec nous.
Mais quel geste a pu être mal interprété, d'après vous ?
Ah ben, c'est complètement déformé, c'est caricatural. Moi, je vois là une malade mentale et un dysfonctionnement.
Mais c'est-à-dire que vous avez pris la petite dans les bras ? Et qu'est-ce qui
s'est passé ? Ah ben moi, personnellement, je l'ai prise, oui, dans les bras.
Oui.
Et je l'ai soulevée légèrement. J'ai mis sa petite tête face à la mienne et puis je l'ai redescendue délicatement.
Mmh.
Enfin.
Pour vous, il ne s'est rien passé vraiment de particulier, quoi.
Ben non, mais mon fils n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Mon mari n'a rien dit non plus.
D'accord. Vous n'avez pas du tout parlé de votre belle famille, ses parents à elle. Comment ça se passe, la relation ?
Alors là, elle ne nous a pas présenté sa belle famille.
Jamais ?
Sa famille. On est passé devant chez eux un jour où mon fils nous avait invités. Donc ces gens-là habitaient à proximité de chez eux. Et c'est mon mari qui a dit « Tiens, tu nous présentes tes parents ?» Elle n'avait pas l'air très, 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 très décidée. Mais finalement, on est entrés. Voilà.
Et alors ?
Ben, c'était pas du tout même des personnes avec lesquelles on pouvait avoir des affinités, nous.
C'est-à-dire, quelle était la différence par rapport à vous ?
J'aime pas juger les gens, hein, mais... C'est difficile, hein. J'aime pas juger les gens comme ça. Hein.
Non, mais sans juger, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
De la vulgarité, beaucoup.
Un milieu social très différent du vôtre ?
Oui, bien que je ne sois pas non plus d'un milieu social particulièrement privilégié. Non, pas du tout privilégié, ni je suis d'un milieu social ouvrier. Hein, donc, mais là, non. Enfin,
c'est pas passé non plus, alors ?
Bah, si, ça s'est passé, mais bon, j'ai senti que déjà la mère disait il serait temps qu'ils aient un enfant. Bon, bah, moi, j'ai trouvé ça inconvenant, quoi. Je me serais pas permis, moi, d'aller suggérer ça. Enfin, bon, c'est un jugement que je porte. Hein. Encore une fois, j'aime pas porter des jugements sur les gens, mais oui, c'est vrai que globalement, ça m'a pas plu, mais est-ce que ça me regardait, moi ? Je sais plus, de toute façon, je suis perdue dans cette histoire.
Et est-ce que la belle-mère de votre fils, elle a joué un rôle quand la petite est arrivée ? Est-ce qu'elle a eu une place ?
Je sais pas.
Vous savez pas du tout ?
C'est opaque. Et après, ils ont déménagé, sans nous dire leur adresse. Je savais donc pas où habitait mon fils. Le téléphone a été coupé.
Mais attendez, quand il y a eu ce clash, quand il vous a fait savoir que vous ne la verriez plus, c'était sous quelle forme ? Par téléphone ?
Non, il est venu à la maison. Ah. Et ça a fait une vraie crise.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ?
Ça a été un gros énervement. J'ai presque fait une crise de nerfs. D'être accusée comme ça, de ça, ça me ressemble tellement peu, moi, qui fais tellement attention aux personnes, aux personnes âgées, aux bébés. J'ai cru, enfin, aux animaux. Enfin, ça a été l'horreur pour moi parce que je voyais que c'était sérieux, quoi. Je lui dis, mais quand même, tu pourras quand même venir avec la petite de temps en temps. Il m'a dit, je me souviens de certaines choses, parce que c'est un traumatisme quand même, vous savez.
Mmh.
Et il m'a dit, mais vous vous rendez pas compte comment elle est.
Ah.
Il a lâché ça.
Mais juste,
ça, je m'en souviens.
C'était donc, si j'ai bien compris, un mois et demi après la naissance.
Oui.
Donc un mois et demi après, soi-disant, cet événement traumatique.
Oui.
Pourquoi est-ce qu'il aurait attendu si longtemps pour débarquer en colère ? C'est une réaction qu'il aurait pu avoir
Il n'était pas en colère. Il n'était pas en colère.
Il n'était pas en colère, mais il vous
dit. Il ne se met pas en colère.
Il arrive, il vous dit quoi alors ? Au bout d'un mois et demi, c'est quand même très, très étrange.
Oui. Mais entre-temps, on est allé rendre visite, parce que, bon, bah, mais en demandant l'autorisation, en téléphonant, parce qu'on était tellement heureux. Est-ce qu'on peut venir voir la petite ?
Mmh.
On ne restait pas très longtemps, on demandait à quelle heure on pouvait aller. Bon, bah, vers 4h30 ou vers 5h, on restait une demi-heure.
Et là, comment ça se passait ?
Je voyais bien qu'on était très malvenus.
Ah, voilà. Elle vous le faisait sentir comment, par exemple ?
Bah, par exemple, on lui avait offert des fleurs, elle n'en a fait aucun cas. On avait apporté aussi des gâteaux d'une bonne pâtisserie. Elle aimait pas ça, elle n'en a goûté aucun. Par exemple, comme ça. Ou alors, mon fils n'était pas encore arrivé et elle ne nous proposait pas d'aller voir la petite. La télé était allumée et elle n'éteignait pas la télé. Elle nous faisait mijoter comme ça, sans nous parler. Elle nous faisait mijoter, là, comme ça, assis sur une chaise. Enfin, vous voyez, des choses de ce genre. Ça me revient, tout ça. Je suis complètement traumatisée.
Et donc, ce jour-là, votre fils débarque. Et comment ça commence? Comment est-ce qu'il...
Éteint la télé, tout de suite.
Comment
ah, le jour...
Non, le jour du clash.
Bah, j'ai un trou. Parce que ça a été comme un cataclysme.
Il vous reproche quoi? Il vous reproche d'avoir maltraité la petite ce jour-là. On tourne toujours autour de ça.
Oui, c'était ça. D'abord, il a dit secouer la petite. Et après, il s'est repris, il a dit des gestes déplacés. Voilà. Et donc, après ça, mon mari est allé chez eux tout seul.
C'est ce que j'allais vous demander. Comment il a réagi, lui, à tout ça?
Bon, mon mari est resté calme.
Ouais.
Il s'est déplacé, il est allé chez eux pour leur parler. Il a voulu y aller tout seul parce qu'il voyait que...
C'était trop dur pour vous, quoi.
Oui. Donc, et il est revenu, il m'a dit, j'ai tout fait pour garder mon calme. À plusieurs reprises, j'ai eu envie vraiment de partir. Mais je suis restée, j'ai insisté, j'ai essayé de négocier, de discuter. J'ai vu qu'il n'y a rien à faire. C'est définitif. Et elle mime des gestes qui n'ont pas existé, des gestes faux. D'ailleurs, ils sont venus par la suite à la maison, à ma demande, et elle a recommencé, elle a mimé d'autres gestes en remuant les bras en l'air, comme si j'avais secoué la petite comme une marionnette en l'air.
Devant
alors
vous?
Là, moi, je suis partie. Quoi.
Devant vous, elle a refait ça?
Oui. Et elle m'a dit, c'est moi la mère, en mettant son... Non, mais je vous assure, voilà. Et donc, je suis partie dans un état, pleurer dans un bois, complètement chamboulée, je vous dis, mais démolie, quoi.
Mais vous leur avez répondu quand même, vous leur avez dit que c'était pas vrai, que c'était...
Ben oui, bien évidemment.
Et alors?
Ben, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. J'ai beau dire que c'est pas vrai, que c'est faux...
Et est-ce que la petite a eu le moindre problème?
Non, aucun.
En plus?
Oui.
C'est complètement dingue, cette histoire.
Oui, c'est une histoire dingue.
Il y a quand même une phrase très importante que vous avez dite. C'est cette petite phrase quand votre fils est parti. Si tu savais comment elle est.
Oui, ça j'ai retenu.
Parce que là, il y a une porte qui s'ouvre vers quelque chose, évidemment.
Oui. Et après ça, nous, on était complètement perdus, ne sachant... quoi penser. Nous sommes allés voir une psychologue. Et elle nous a dit que c'est une emprise. Que notre fils est sous emprise.
Ça y ressemble, oui.
Que le jour où on le retrouvera, il sera ramassé à la petite cuillère. Et qu'il faut qu'on fasse le deuil de ce couple, de notre fils pour l'instant. Et la petite, si on veut la voir, de faire qu'on a des droits. Mais tout ça, c'est...
Ça, c'est déclarer la guerre. Hein. Faites attention à ça aussi.
C'est exactement ça, parce qu'on a entrepris. Alors, on a suivi ses conseils. Mais nous, ce qu'elle aurait dû faire, je regrette, j'ai des reproches à lui faire, mais bon, c'est fait. C'est qu'elle aurait dû nous dire, elle aurait dû percevoir à quel point on était traumatisés. Et à quel point on était chamboulés émotionnellement. Elle aurait dû nous dire, vous pouvez faire ça, mais prenez votre temps, laissez le temps passer.
Exactement, oui.
C'est moi qui pense ça maintenant. Vous voyez?
Mais oui.
Parce que j'ai l'impression que ce qu'on a fait, on n'a pas ouvert de procédure aux affaires familiales.
Vous avez fait
mais
quoi,
on a quand même envoyé, enfin, on a quand même envoyé un premier courrier très très bien écrit, hein, absolument sans agressivité, sans jugement, adressé à notre fils. Il fallait l'envoyer en recommandé.
Et vous m'avez dit que vous n'aviez plus son adresse?
Pardon?
Vous m'avez dit que vous n'aviez plus son adresse?
Mais à ce moment-là, j'ai réussi à récupérer son adresse par une personne qui travaille dans une administration. Enfin, j'ai réussi quand même à récupérer son adresse, vous voyez,
d'accord,
en rusant comme ça.
Et dans cette lettre, il y avait quoi en synthèse, en deux mots, quoi.
Bah, qu'on était très heureux d'être grands-parents, qu'on ne comprenait pas leur refus. Et voilà, en gros, c'était ça. Hein. Et que c'était pas une lettre de menace,
d'accord,
c'était juste une lettre dans le exact. Je peux pas, je l'ai pas sous les yeux, mais c'était exactement dans le sens une lettre gentille, hein, une lettre pas de colère, rien.
D'accord. Et pas de réponse, j'imagine.
Conseillée par la psychologue.
Oui.
Pas de réponse.
Oui, bah oui.
Donc là, elle nous a dit, la psychologue nous a dit d'aller voir un avocat qui leur enverrait un courrier, donc pour. Comment dire, pour leur signifier qu'il existe un article, une loi qui permet aux grands-parents et aux petits-enfants d'avoir des relations.
Tout à fait.
Mais
oui.
Cette loi, elle est pas. Cette loi est très mal faite. Donc, d'ailleurs, il y aura des modifications dans l'avenir, certainement. Et il nous a dit on n'est pas là pour mettre. Alors, moi, quand je suis allée chez cet avocat, j'avais l'impression d'être saoule sur le trottoir, de zigzaguer, enfin non mais c'est j'ai vécu l'horreur et donc on l'a quand même fait et il nous a dit nous on n'est pas là pour mettre le feu dans les familles, bon,
de l'huile sur le feu, oui.
Voilà, donc mais la lettre a été très courte, sobre, simple, formelle, bon voilà, et la réponse est venue un jour et la réponse c'était celle-là de la part d'un avocat, une réponse qui disait l'attitude et le comportement de madame, donc moi, ainsi que vis-à-vis de ses enfants et de cet enfant, donc la petite,
mmh,
ainsi que les conflits familiaux, ne permettent pas de relation entre les grands-parents et cet enfant.
Oui, ce qui ne veut rien dire, il n'y a rien de concret là-dedans.
Non, mais quand j'ai reçu ça, j'ai trouvé ça odieux que des avocats qui travaillent sur de l'affect, sur du sensible, se permettent de. C'est comme un prononcement de jugement, finalement, ce n'est pas un re. Alors, notre avocat nous a dit, mais ne le prenez pas mal, je vous comprends que vous soyez un peu, que vous soyez chamboulé, mais chez nous, ça correspond à un refus. Enfin bon, ils se défendent, mais non, c'est pas ça un refus. Il n'y a aucun argument, il n'y a rien. Moi, je ne sais pas de quels conflits familiaux il s'agit. Je ne sais pas de quelle attitude ni de quel comportement. Donc, travailler comme ça et encaisser de l'argent. Pour ça, moi, je suis choquée. Je suis choquée, oui, vraiment. Bah vraiment,
c'est vraiment. C'est curieux, je vous dirais plutôt l'inverse. Moi, je pense que le fait qu'il n'ait pas d'arguments, c'est plutôt rassurant pour la suite. Parce
que
s'ils avaient des arguments vraiment factuels et prouvés, vous seriez embêté. Mais là, c'est du n'importe quoi, ce sont des mots. C'est comme si je vous disais, je ne vous aime pas parce que vous avez les cheveux verts. Bah, prouvez-le. Ils vous disent, compte tenu des comportements, quel comportement, quelle preuve ? Il n'y a rien dans ce qu'ils vous disent.
Ah bah, c'est ce que disait la psychologue, vous auriez un pantalon vert, il ne vous plairait pas. Vous auriez des yeux de telle couleur, elle vous le reprocherait.
Mais c'est plutôt rassurant pour la suite, ça veut dire qu'ils n'ont, ils n'ont pas de biscuits contre vous, quoi. Ils n'ont rien ?
Non, rien.
À part effectivement une espèce de ligne de défense qui est... tu l'as secoué, tu la verras plus, mais ça c'est du n'importe quoi, sans preuve, sans témoin, sans séquelles.
Oui, mais mon fils ne répond plus au téléphone.
Ça ne va pas aller très loin. Là, ce qui est plus embêtant, c'est jusqu'où elle a réussi à l'enfermer comme ça. Est-ce qu'il a un caractère de soumis, votre fils ? Ou pas du tout ?
Pensais qu'il avait du tempérament. Je sais que c'est quelqu'un qui était très gentil, qui avait bon cœur.
Peut-être trop gentil ?
Oui.
Et qu'est-ce qui ferait qu'il pourrait être à ce point-là sous sa coupe à elle ?
J'en sais rien. Ah bah si, elle le tient maintenant parce qu'il y a eu une deuxième petite fille. D'ailleurs, on n'a pas eu de faire part. Hein. C'est encore cette même personne qui travaille dans une administration qui nous l'a dit.
Ah, ça prend encore une autre dimension. Ce qu'on va faire, Catherine, c'est qu'on va laisser la place aux infos, si vous le permettez.
Merci.
Reprenez votre souffle tranquillement.
Merci
et
beaucoup.
Puis on va reprendre notre conversation dans quelques petites minutes.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Catherine. À tout de suite.
Europe 1, la libre antenne.
On se retrouve donc pour la suite de cette libre antenne sur Europe 1. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à minuit. Et vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler tout au long de l'émission si vous avez envie de prendre la parole ce soir. Vous faites 39-21 et vous tombez sur Fanny ou sur Kelvin qui vous guideront jusqu'à moi. 39-21 donc pour le téléphone. Si vous avez envie de réagir par SMS, de donner votre avis, d'apporter un soutien, de demander à être mis en relation avec quelqu'un qui vous touche particulièrement, vous faites le 7-39-21 et vous commencez bien votre message par le mot nuit, suivi donc de votre message. 7-39-21, le mot nuit et votre message. Enfin, je vous rappelle notre adresse mail, libreantenne, en un seul mot, libreantenne@europe1.fr et ma page Facebook, Sabine Marin officielle, sur laquelle nous pouvons nous retrouver avant, pendant et après l'émission.
Sabine Marin vous écoute sur Europe 1.
Catherine, êtes-vous là ?
Oui, je suis là.
Oui, donc ils ont remis ça, ils ont fait un deuxième enfant ?
Oui.
Combien de temps après ?
L'aînée a 6 ans et demi et la deuxième doit avoir 2 ans et demi.
D'accord.
Donc 4 ans.
Et ça, vous n'avez pas, ils vous l'ont même pas dit ?
Non.
Comment est-ce que vous avez réagi quand vous l'avez appris ? Est-ce que vous vous êtes manifestée ?
Non.
Non.
Je ne me suis pas manifestée. J'arrive même pas à me représenter puisque je ne l'ai pas vue. J'ai pas eu de faire-part.
Cet échange de lettres d'avocat, c'était il y a combien de temps ?
2015. Oui, 2015. La petite est née en mars 2015, je crois. Attendez. Oui, c'est ça. Et en 2016, alors, la lettre d'avocat.
Donc, ça veut dire que ça en est resté là. Vous n'avez pas cherché à faire valoir vos droits ?
Non.
Non. Et pourquoi ?
C'est-à-dire entreprendre une procédure ?
Oui.
Nous sommes allés en médiation aussi, j'ai oublié de vous dire. Et là, je n'ai pas reconnu mon fils du tout. Mais c'était lui physiquement. Mais je ne le reconnaissais pas. C'est comme si on lui avait changé de cerveau. Déjà, ils ont accepté de venir en médiation. Normalement, quand on vient en médiation, c'est qu'on est disposé à négocier, à parler de ce qui ne va pas et à cheminer et trouver une solution.
Logiquement, oui.
Oui, logiquement. Et donc là, si vous voulez, mon fils nous a d'emblée, c'était la provocation. Vous, je ne vous dis pas bonjour après tout le mal que vous nous avez fait. Voilà.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Mais oui, mais je vous dis qu'elle est dans. Je pense que c'est. Voilà. Donc ça. Ouais. Après, on s'assoit dans la salle, donc avec le médiateur, un homme très bien, très sympathique, et mon fils. Donc, alors mon fils dit : je hais ma mère, même en photo, je ne peux plus la voir. Et donc, sa compagne était à côté de lui et elle dit « Monsieur, en parlant de mon mari, c'est le jeu de madame. » Et après, elle dit « Madame prend les enfants pour des objets, des moyens de faire pression. Madame doit se droguer. » Bon, après, moi, je me contenais. Et on en est arrivé au problème. J'ai dit « Bon, ben... on en est arrivé au problème du fait que j'avais secoué la petite. Donc j'ai dit, avec la meilleure des volontés, j'ai dit, bon, je conçois qu'une maman qui vient d'avoir un nouveau-né puisse être particulièrement sensible. Mm-hmm. Je conçois que j'ai pu déranger dans la façon de m'y prendre. J'en suis fort désolée. Vous voyez, je suis allée jusque-là. Hein.
Oui.
Et, non. C'est pas ça qu'elle veut. C'est pas du tout... Ça la dérangeait bien. Donc après, elle y va à fond dans la provocation Et puis, ça a fini comment? Mon mari, a perdu, qui est très calme, parce que le médiateur a dit, monsieur, je me vous représentez comme quelqu'un de très calme, mais quand on vous pousse dans vos retranchements, quand vous êtes provoqué à ce point-là, eh bien, il a pris son fils et puis il était sur le point de lui mettre une claque. Et mon fils est parti, la médiation, ça a été un fiasco. Voilà comment ça s'est terminé.
Quel serait, d'après vous, l'intérêt de cette femme de faire ça?
Moi, je pense qu'elle a un dysfonctionnement, je ne sais pas lequel, mais quelque chose de psychiatrique. Je ne comprends pas. C'est une manipulatrice complète.
Je pense à quelque chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas derrière ça une secte ou un mouvement sectaire dans lequel elle serait embrigadée et dans lequel elle essaierait d'entraîner votre fils?
Je ne crois pas.
Non.
Je pose la question simplement
parce que quelquefois j'ai entendu des histoires qui ressemblaient un peu à ça.
Oui.
Et quand un comportement est à ce point-là, nous paraît en tout cas de l'extérieur
comment
étrange, il manque des morceaux du puzzle. Quoi.
Comment je pourrais savoir ça? Parce que comment je pourrais savoir?
Je sais pas, en faisant des recherches sur elle. Est-ce que vous avez regardé un petit peu sur les réseaux sociaux?
Il y a rien.
Il y a rien sur elle?
Non.
Ce qui est très étrange, c'est que votre fils se soit complètement laissé soumettre comme ça.
Oui, et parce il me dénigre complètement.
Si elle avait une maladie psychiatrique, il vous en parlerait. Il vous dirait, écoute maman, j'ai un problème avec ma femme, elle est malade, ça ne va pas. Enfin, il ne prendrait pas son parti comme ça.
Oui, mais il prend son parti et il me dénigre, il me rejette. Ah oui, parce que deux fois aussi après, avec mon mari, on s'est déplacé. Enfin, une fois par an, là, ça fait bien 2 ans qu'on n'était pas allé. Enfin... Et alors, elle, on la voit pas, elle reste dans la maison. La première fois, on l'a entendu dire « violation de domicile ». Donc, elle doit bien lui monter la tête, elle doit bien le stresser, lui faire, enfin, je pense qu'elle le terrorise.
Vous êtes allée quand, la dernière fois?
Peut-être c'était en 2010. Non, c'était pas la dernière fois, je vais vous dire après. En 2017, on a dû aller faire un tour, en été 2017. Voilà. C'est à ce moment-là qu'on a entendu violation de domicile. Donc, mon fils est sorti, il faisait chaud. J'ai même demandé, est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Il m'a refusé un verre d'eau parce qu'il pouvait pas, il n'osait même pas, sans doute, rentrer dans la maison, elle étant à l'intérieur. Et il ne faut surtout pas qu'on voie la petite. Enfin, bon, on est parti. Et une autre fois, peut-être en 2018, après, on a dû retourner. Et là, il m'a dit « tu es dangereuse, me concernant. Pas physiquement, mais psychologiquement, tu es dangereuse. »
Donc ça ne fait
alors
pas,
là,
ça ne fait
je
pas...
suis restée mais sidérée, incapable d'ouvrir la bouche. Et mon mari m'a dit « allez, viens, on s'en va. »
Ça fait pas 6 ans que vous ne l'avez pas vu, alors finalement, ça fait 3 ans.
Non. Mais ça fait 6 ans, si vous voulez, que le lien est normal et coupé.
D'accord.
Voilà. Okay. Et là, ça se passe comme ça.
C'est-à-dire que ça se passe plus du tout maintenant, si je comprends bien. Vous n'y allez plus.
Non. Ah ben non. Et il ne faut plus du tout qu'on y aille.
Pourquoi il faut...
Et je me suis mis en relation avec, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Madame Marilyn Joss, qui est présidente de l'association « Nous voulons revoir nos petits-enfants ».
Non, je ne connaissais pas.
Et elle est très courageuse et puis elle a déjà eu des rendez-vous avant le Covid avec des personnalités du gouvernement pour faire réviser justement la loi sur le droit de visite.
Oui.
Oui. Et elle a été victime elle d'un manipulateur pervers pendant des années. Elle a vécu avec un homme qui l'a détruit, quoi. Donc elle me dit que mon fils est victime d'une personne comme ça qui isole, qui coupe les liens et qui a du plaisir. Ah oui, elle m'a dit, Marilyn Joss m'a dit, n'y allez plus. Parce qu'à chaque fois que vous vous manifestez, elle voit, elle sent que vous souffrez.
Elle gagne, oui, bien sûr.
Et donc, elle est contente.
Alors justement, je voulais en arriver à ça, cette psy que vous avez vue. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas entamé avec elle un travail, non pas pour, pour, pour lancer une procédure judiciaire, mais pour travailler sur vous, sur cette rupture, sur les mauvaises émotions.
Justement, je critique un peu parce que sa façon de faire, j'ai trouvé un peu léger, quoi. Elle se débarrasse vite des gens, elle dit bon ben allez vivre votre vie maintenant, vivez votre vie, débarrassez-vous.
D'accord, alors si ça n'a pas fonctionné avec elle, vous n'avez pas essayé avec une autre ? Parce qu'on sent que c'est lourd à porter tout ça quand même pour vous.
C'est affreux puisque j'ai dû aller aux urgences psychiatriques il y a 2 jours. Je suis restée 2 nuits.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je suis retournée voir jusqu'à chez mon fils parce que je ne le vois jamais mais je ne le ferai plus jamais parce que je me demande comment il va. Vous voyez, je me dis il pourrait être malade, il pourrait être mort, je saurais pas. Enfin, et donc j'avais juste envie de le voir physiquement, voir comment il est, quelle mine il avait, comment il était. Et donc j'ai pas pu approcher de la maison parce que j'avais dû être repérée. Donc il est arrivé et impossible d'échanger. C'est impossible. Tu n'écoutes pas, tu n'as jamais écouté, tu n'entends rien. De toute façon, ça a toujours été comme ça. Tu cherches toujours des problèmes partout. Il me parle comme ça. Il est pas normal avec moi. Et vous savez ce que j'ai fait ? J'ai fait à un moment donné, je n'y arrivais tellement pas. Que j'ai eu comme il habite au bord de l'eau, il habite pas très loin de l'eau, mais on appelle ça une réaction, c'est un réflexe apparemment, j'ai compris puisqu'on me l'a expliqué aux urgences. Je suis rentrée dans l'eau tout habillée jusqu'au menton.
Et là, qu'est-ce qui s'est passé ?
Et j'ai l'impression que inconsciemment, c'était comme pour lui faire un électrochoc. Et ben là, il avait peur que les voisins voient, qu'on remarque. Et il m'a dit, tu ferais mieux d'aller te jeter du pont. Donc moi, j'ai pris ma voiture. À ce moment-là, je suis rentrée et je suis allée aux urgences psychiatriques en disant, voilà, je crois que j'ai voulu me noyer.
Et comment ils vous ont accueilli ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous ?
Bien, ils m'ont très bien accueilli.
Non, ce que je veux dire, c'est que maintenant, concrètement, vous avez un suivi ?
Alors maintenant, non. Parce qu'ils voulaient que je sois hospitalisée, mais je ne veux pas. Parce qu'ils n'ont rien à proposer d'autre que ils n'ont rien à proposer qu'un traitement et puis ne rien faire, quoi. Donc, je vais contacter le CMP, que j'avais déjà contacté en début d'année. Mais comme je suis passée par les urgences, j'aurai peut-être la possibilité d'avoir un rendez-vous avec un médecin.
Une priorité.
Je vais tenter ça demain. Oui. Et autrement, je vais tenter de trouver un médecin psychiatre qui s'y connaît en syndrome d'aliénation parentale, parce qu'il s'agit de ça, hein, et de d'emprise.
Je pense que c'est...
Parce que là, je suis dans un état d'asthénie au bout de 6 ans, et de le sommeil ne me repose plus. Et ça prend trop de place, malgré moi. Hein. Donc, j'ai besoin d'être aidée. Donc là, je vais essayer de trouver quelqu'un qui va pouvoir m'aider.
Il est temps, j'allais dire, effectivement. Hein. Vous êtes restée longtemps sans aide.
Oui.
Et là, c'est vraiment urgent que vous soyez aidée. C'est plus qu'urgent.
Oui, vous pensez aussi.
Ah, je pense qu'il faut vraiment vous concentrer sur vous pour l'instant. Il faut lâcher complètement prise sur le reste.
Oui.
On n'a pas tous les éléments. Moi encore moins que vous, mais...
Non, mais je n'y comprends rien, je...
Alors au bout d'un moment, vous savez, quand on se tape la tête contre les murs, il faut arrêter.
Oui,
il faut arrêter. Pour l'instant, en tout cas, pour l'instant, vous n'avez pas les éléments.
Non.
Et pour l'instant, vous ne savez pas. Ça ne veut pas dire que ça ne changera pas plus tard, on n'en sait rien, ni vous ni moi.
Oui. Oui.
Ça veut dire que juste, vous vous êtes fait tellement de mal qu'il faut vous faire du bien maintenant, il faut que ça s'arrête. Et ça va s'arrêter en passant par un traitement...
Oui.
Par une pause, par un lâcher-prise total de leur histoire à eux. Vous savez, c'est difficile quand on n'a qu'un seul enfant, mais personne n'appartient à personne.
Non, ça, je suis tout à fait d'accord. Hein,
c'est son chemin de vie, c'est très triste. Mais pour l'instant, si vous allez sur ce chemin-là, vous vous faites du mal à chaque fois.
Ah oui.
Et ça, c'est pas possible. Vous ne méritez pas ça.
Non, je ne mérite pas ça.
Vous avez
surtout
un...
je suis pas du tout envahissante, je suis à l'écoute. Si il y a quelque chose qui va pas, que j'ai mal fait, je veux bien l'entendre.
Non mais laissez tomber, une fois encore, vous n'avez pas tous les morceaux du puzzle.
Non.
Donc c'est vraiment un...
Mais par contre, il y a une chose que j'ai pas dit, qui s'était passée. Et c'est vraiment bizarre, les destins. Parce que quand elle avait 3 ans, donc cette, la compagne de mon fils, elle a perdu son papa dans un accident. Donc, son papa circulait à bord d'un véhicule avec un copain. Mmh. Et il y a eu une explosion au gaz et l'immeuble s'est effondré et a écrasé la voiture. Et nous, donc, on habitait à côté. Et mon mari, les fils électriques, ça a fait un bruit mais atroce, les fils électriques qui se balançaient partout, des étincelles, enfin c'était horrible. Mon mari s'est précipité, il est descendu et il a vite compris, enfin ils ont enlevé retiré le plus de pierres qu'ils pouvaient, le plus de gravats qu'ils pouvaient pour dégager la voiture. Et donc y avait donc un homme qui s'est tiré d'affaire, qui a survécu, et l'autre, mon mari a pris son pouls, mais on était jeunes à l'époque.
Et c'était le père de cette femme.
Et c'était le père de cette femme.
C'est incroyable.
Elle a eu un traumatisme énorme elle avait 3 ans et. Oui, elle avait 3 ans. C'est étonnant, hein.
Elle connaît cette histoire-là ?
Oui.
Est-ce qu'elle ne se serait pas montée la tête en disant que votre mari n'a pas fait ce qu'il fallait à ce moment-là, ou quelque chose, rien, si c'est monté en mayonnaise, si elle est en état de choc post-traumatique ?
La psychologue nous a dit ça aussi. Peut-être qu'elle vous en veut.
Est-ce qu'elle ne se serait pas fait un scénario complètement dingue ?
Oui.
Bon, en tout cas, l'urgence, c'est vraiment vous maintenant. Une fois de plus, quand on n'arrive plus à résoudre quelque chose, il faut arrêter, il faut lâcher.
Oui.
Ça ne veut pas dire que ça ne changera pas. La vie est pleine d'avancées, de surprises, de changements. Beaucoup de choses peuvent se passer, mais pour l'instant, l'urgence, c'est vous.
Tellement que je me dis, vous voyez, c'est tellement choquant, enfin, c'est tellement atroce, que je me dis, mais je ne le connaissais pas alors. Je n'ai pas vu qu'il était con à ce point-là, mais il n'était pas comme ça, il n'était pas con quand même. Enfin, j'aurais vu, j'aurais su. Enfin, c'est incroyable.
Et sauf que vous avez vécu avec un enfant et un ado, et maintenant, c'est un homme, il a évolué aussi. C'est pour ça que je vous dis, personne n'appartient à personne. Et même nos propres enfants, on ne sait pas comment ils évoluent après. Il y a tellement de facteurs X que vous ne connaissez pas dans cette histoire, en plus.
Oui. Non. Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Et plus vous allez vous acharner à essayer de comprendre, plus vous allez vous rendre malade. Là, vous êtes au bout de ce que vous pouvez faire. Vous avez la chance, quand même, d'après ce que j'ai compris, d'avoir un mari solide, d'avoir une vie de couple. J'espère que vous avez aussi une vie sociale, des amis, des activités.
Oui. Pas beaucoup, mais oui.
Et je pense qu'il est urgent de vivre pour vous maintenant, vraiment. La vie passe vite, vous savez.
Il faut que j'apprenne à ça, il faut que je me fasse aider.
Vraiment, oui, je pense que c'est important.
J'espère que je vais trouver quelqu'un.
Recentrez-vous sur vous, vous avez la chance de ne pas vivre seule. C'est déjà formidable d'être avec un homme qui vous aime et que vous aimez, j'espère en tout cas.
Oui,
avec qui ça a l'air de plutôt bien se passer, donc ça c'est une chance inouïe.
Oui.
Et de profiter de la vie tous les deux déjà.
Oui. Hein. Oui.
Le temps de vous reconstruire. Après, vous verrez comment les choses évolueront. Mais là, oui, il faut vraiment arrêter de vous faire du mal.
Oui, d'accord. J'espère que je vous reverrai quand même.
Souvent, je dis, vous savez, il y a des combats qu'il faut arrêter de mener.
D'accord.
Parce qu'il vaut mieux être en paix que vouloir avoir raison.
D'accord.
Our l'instant. Une fois de plus, rajoutez toujours le petit mot encore. Je n'ai pas encore compris ce qui se passe. Je n'ai pas encore revu mes petits-enfants. Mais ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas.
D'accord.
Ça veut dire que pour l'instant, vous avez besoin, vous, de vous reconstruire, de vous retaper.
Oui, c'est vrai.
Et de profiter de votre vie et des belles choses, parce que du coup, vous en oubliez les belles choses dans votre vie. C'est quand même dommage.
Moi, je me suis accrochée.
Ben oui, mais c'est ça. Mais vous avez focalisé sur cette situation qui est effectivement très triste, mais vous en avez lâché aussi le reste.
Pas tout, quand même.
Bon, alors profitez du reste maintenant, vraiment.
Oui.
Faites-vous aider, profitez des gens qui vous aiment, qui sont là pour vous. Profitez de la vie.
Oui.
Et quand vous serez retapé dans quelques semaines, dans quelques mois, vous verrez peut-être les choses différemment, il y aura peut-être des évolutions, on ne sait jamais, tout est possible. Tout est possible.
Tout est possible, d'accord.
Mais là, c'est un combat que vous... Ce n'est pas le moment de le mener, en tout cas. Ce n'est plus le moment, maintenant.
Non. Je vais faire ça. Oui.
Ça me paraît. Et trouver vraiment quelqu'un qui vous accompagne ou qui vous avait confiance.
Oui.
C'est important.
J'arrive à demander de l'aide. Je parviens à ça. Merci beaucoup.
Bon, ça c'est une très bonne chose déjà, Catherine.
Je vous remercie infiniment et je remercie aussi Marilyn Joss et puis Fanny.
C'est Fanny, oui.
Merci beaucoup et le jeune homme aussi.
Kelvin, il vous fout un grand sourire, il vous envoie des bisous tous les deux. Et vraiment, Catherine, vous me rappelez quand vous voulez, si vous avez envie de parler et de me raconter la suite de
oui,
tout ça.
Et j'écoute souvent et je note des phrases que vous dites et qui m'aident beaucoup.
Mais tant mieux, la porte vous est grande ouverte, Catherine, en tout cas.
Merci beaucoup.
Je vous embrasse, prenez soin de vous.
Au revoir.
La Libre Antenne d'Europe 1, Sabine Marin accompagne vos nuits.
30 ans sont passés en une semaine, c'est comme si c'était hier, c'est comme si c'était hier. Ta main qui tenait toujours la mienne sous ton manteau d'hiver, sous ton manteau d'hiver. Mais quand tu
Si c'était hier, c'était Carla Bruni.
La Libre Antenne d'Europe 1, Sabine Marin accompagne vos nuits.
Et nous allons faire maintenant la connaissance de François. Bonsoir François.
Bonsoir Sabine. Content d'entendre votre voix.
J'allais vous dire la même chose.
Ouais, j'adore votre parole, j'adore votre timbre de voix. J'adore... tout ce que vous pouvez ressentir et apporter. Et j'écoute votre émission qui me fait un bien fou depuis déjà quelques années. Et votre émission, comme je vous avais eu déjà il y a quelques temps, c'est un peu le socle, la pierre angulaire, la pierre de ma... Comment dire le terme ? De ma, entre guillemets, une résurrection, de revoir la lumière et le soleil.
Ah, bah alors ça m'intéresse. Racontez-moi. Ça a été l'élan ?
Ouais, ça a été l'élan. Je pense que, bah, des fois, vous savez, échanger avec les gens, avec bienveillance, empathie, tolérance, écoute, respect surtout. J'attache beaucoup d'importance à toutes ces valeurs qui, tout à chacun, sont. Voilà. Je suis très ponctuel là-dessus. Mais ce que je préfère, c'est la beauté intérieure. La beauté de l'âme d'une personne, quel qu'il soit, ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et aujourd'hui, si je suis là ce soir pour vous parler, je dois énormément de choses à une personne.
Alors attendez, François, si vous le voulez bien, pour ceux qui n'étaient pas là quand vous m'avez appelé la première fois, est-ce que vous pouvez résumer ce que vous m'aviez raconté ? Vous étiez vraiment dans le fond du trou.
Ouais, j'étais dans le fond du ravin. J'ai cité une petite Maxime, j'étais dans le fond du ravin. Elle m'a rattrapé par la main. Elle a toujours été présente avec ses qualités de cœur. Et son cœur est très grand. Voilà, c'est très simple. Donc, je sors de 2 années d'une très grave dépression. J'ai touché le fond. J'ai eu un accident de travail qui m'a plongé dans le fond du, comme je dis, dans le fond du ravin. J'étais perdu. Plus de confiance, plus rien. Mais vraiment, j'ai voulu m'en aller. J'étais interné pour ça.
Oui.
J'étais interné pendant 2 mois. Hôpital psychiatrique, ça a été le moment le plus dur de ma vie. J'ai souffert, j'ai pleuré, j'étais touché, j'ai été sali aussi par cette personne qui m'a fait mal, très mal. Mais j'oublierai jamais ça, je ne l'oublierai pas lui. Mais il faut que je me dise qu'il faut que j'avance. Et aujourd'hui, j'avance, je regarde le soleil,
oui,
la lumière, la mer. J'habite dans une station balnéaire. J'ai retrouvé espoir. J'ai retrouvé la vie. La vie, je la dois à cette personne. La vie. À cette personne, précisément. Et aux soignants qui m'ont entouré, aidé, avec leur empathie, leur bienveillance, leur tolérance, leur écoute, leur échange, leur soutien, sans aucune faille. Et j'ai compté aussi sur la doigt d'une seule main les amis, les vrais, ceux qui sont là pour vous.
Eh oui.
Voilà. Et aujourd'hui, donc, suite à cette dépression, je m'en suis sorti, j'ai retrouvé la joie de vivre, le sourire, la joie de conduire, parce que j'adore conduire. C'est des choses simples, hein. Ça paraît simple comme chose, mais des petits touts, des petites choses qui font des petits riens et qui sont grandes.
Tout ce qu'on n'arrive plus à faire quand on est en dépression, hein. Tout ce qui paraît insurmontable.
Exactement.
Et finalement, quand on arrive à le faire, c'est tout simple, mais c'est tellement bon.
Ouais, et chaque jour, toujours avec humilité, modestie, pas à pas, j'avance. Je mets un pas devant, comme on dit la chanson, je mets un pas devant l'autre. Mais je sais que, quelque part, je reviens de nulle part. Je reviens de nulle part.
Mais vous êtes quelque part, justement.
Ouais, je suis chez moi. J'ai retrouvé un travail à 57 ans. J'ai un CDD et j'ai un CDI à partir de septembre.
Oh,
ballet.
Bravo, dis donc.
Je ne croyais plus du tout à la vie.
Mais vous
je
ne
croyais plus pas avoir un boulot. Je suis épanoui dans mon travail. Je me sens super bien. Je fais ce que j'aime.
C'est quoi ?
Je suis cuisinier.
Ah, chouette.
Je suis cuisinier. C'est un métier que j'aime. C'est un métier, une passion. C'est quelque chose que, voilà, c'est j'ai ça dans dans le centre, on va dire. Mais je dois tout ça à cette personne qui a été toujours présente, toujours à me conseiller, à m'écouter, à m'apaiser, surtout.
Mais c'est qui cette personne ?
C'est une réflexologue.
Ah, je pensais que c'était une femme.
Oui, c'est une femme.
Oui, non, mais une femme dans votre vie.
Non, elle est pas dans ma vie, mais Elle est importante dans ma vie, oui.
Elle
parce
vous
que bon, voilà, elle ne vit pas avec moi, bien évidemment. C'est pas entre guillemets l'envie qui m'en manquerait, mais j'ai des choses dans la vie. Il ne faut pas faire aux autres ce qu'on peut faire à soi-même. C'est-à-dire le respect, la tolérance. On a beaucoup d'échanges ensemble.
Oui.
On a énormément on va dire, de complicité. Donc, nos valeurs humaines se rejoignent. Nos valeurs de la vision de la vie, les choses de la vie nous rejoignent, nous font, nous rassemblent et nous ressemblent. Et j'adore cette personne. Elle est, je lui ai déjà dit, elle est au fond de mon cœur à jamais.
Elle vous soigne aussi en réflexologie plantaire ?
Oui, j'y vais une fois chaque mois.
C'est magique.
Elle me fait un bien énorme.
C'est extraordinaire.
Et je conseille énormément aux personnes qui sont en dépression, qui ont quoi que ce soit, au lieu de prendre des antidépresseurs, des quoi que ce soit, d'aller voir cette personne. Elle a un don inné de ça. Elle a un septième sens.
Sixième, ça serait déjà bien.
Un sixième, oui, pardon.
Elle m'a toujours... C'est dans la 7, ça a l'air vraiment exceptionnel. Ouais.
Elle m'a toujours touché, ému, bouleversé. C'est la seule personne qui est arrivée à entrer dans ma vie d'enfant quand j'étais jeune. Jamais personne n'est arrivé à rentrer dans cette dans ce château, dans ce coffre-fort qui était fermé à clé pour moi, à double tour. Je ne me suis jamais ouvert là-dessus. J'ai souffert beaucoup dans mon enfance. Et elle arrivait à découvrir ça. Alors, j'ai mis le temps qu'il a fallu pour parler de tout ça, parce que ça fait une partie de ma vie. Et j'ai pris quelques temps avant de lui confier les choses. Elle m'a écouté.
C'est formidable, parce que ça va beaucoup plus loin que la réflexologie plantaire, là.
Ah ouais, mais c'est un diamant, c'est un bijou.
Vous avez
vraiment
la chance de la
rencontrer. Je ne savais pas que nous, dans cette société si égoïste, si individualiste, si personnelle, on pouvait rencontrer encore des personnes comme ça. Et vraiment, je vais vous dire quelque chose ce soir, ça va être très fort. Je suis aux anges pour cette personne. Et vraiment, je lui dois énormément de choses. Je lui dois tout, quelque part. Je lui dois...
une renaissance.
Ce que je suis aujourd'hui, ce que j'ai aujourd'hui, chaque jour que j'avance, chaque pas, c'est à elle que je lui dois.
C'est formidable quand on a des rencontres comme ça, quand la vie nous offre le cadeau d'une rencontre comme ça.
Ah ouais, mais je vous jure, Sabine, c'est un cadeau de la vie qui me tombe sur la tête, entre guillemets, parce que c'est touchant, elle est touchante, c'est émouvant, c'est vrai, c'est sincère, c'est honnête, c'est pur, c'est sain, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime et apprécie chez une personne, et elle le sait très bien. Et lorsque je vais en séance, je lui dis toujours quand je pars, vous êtes touchante et vous êtes vraiment mon rayon de soleil. Je lui dis, il faut dire aux gens, aux personnes, qu'on les aime, qu'on les apprécie. C'est pas quand vous êtes plus là, quand la maladie est là, quand les problèmes sont là, quand vous êtes au fond du trou, entre guillemets, que c'est trop tard. Il faut leur dire aux gens qu'on les aime. Et je lui ai déjà dit.
Savoir être reconnaissant, oui. Tout à fait.
Oui, mais elle aura toujours ma gratitude. Ma gratitude. Parce que voilà, et que de chemin parcouru. Que de chemin parcouru aujourd'hui. Aujourd'hui, retrouver la santé, la sérénité, la confiance. Me retrouver moi-même déjà. Retrouver le sourire. Conduire. Aller marcher à la plage, aller marcher à la mer, si je suis à 5 minutes, marcher dans l'eau, regarder le paysage, regarder...
Toutes ces petites choses de la vie, oui.
Ouais, tout ça, mais je dois ça à cette femme.
Je suis vraiment ravie que vous alliez mieux, François, et ça me permet justement de conseiller à nouveau la réflexologie plantaire qui est vraiment... pour moi, c'est une thérapie presque magique.
Ah ouais, mais ça, je vous dis, je lui ai dit, si je vous avais connu avant, pour les séances, jamais je n'aurais pris tous ces tas d'antidépresseurs et de médicaments qui vous détruisent à petit feu.
Bon, il semblerait qu'elle soit quand même particulièrement exceptionnelle, parce qu'en réflexo, on part pas en thérapie, mais quand même, moi j'ai vu des choses se passer en séance de réflexo plantaire qui sont vraiment très intéressantes. Ça peut aller très loin. Ça peut aller très très loin.
Ah ouais, mais c'est...
ça n'est pas que physique, ça joue sur
plein
de choses.
Oui, mais moi, elle ressent, par exemple, bon, je vous cite un simple exemple.
Les émotions,
Elle ressent des choses, par exemple, elle me dit, il y a quelque chose qui vous inquiète, si vous êtes stressé sur quelque chose.
Oui, tout à fait.
J'ai dit, mais comment vous savez ça? Elle me dit, mais parce que je ressens des choses.
Les empreintes du corps, les empreintes émotionnelles.
Exactement,
du corps.
Honnêtement,
Les bons réflexos ou les bonnes réflexologues sont des gens qui nous aident énormément dans plein de domaines, hein, vraiment. Et on n'y pense pas
ouais,
assez.
Mais là, je conseille vraiment les personnes qui sont touchées, entre guillemets, de plein fouet par ça, par une grave dépression, qui disent qu'ils ne vont jamais vous revoir le soleil ou la lumière, d'aller voir ces gens-là, ces personnes-là, parce que c'est mieux que de prendre des médicaments. Je vous le conseille vivement. Vraiment,
si vous... Il y a Annie qui envoie un message pour vous qui dit « Merci de transmettre votre témoignage. François, ça aide quand on est dans le même cas. Ça permet d'espérer. Vous êtes sur la bonne voie. La bonne route », nous dit Annie.
Ben, je vous remercie beaucoup, Annie. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses et puis de se retrouver elle-même déjà, reprendre goût à la vie petit à petit. Moi, je sais que ça a été très, très difficile par tous les chemins de traverse que j'ai pu passer parce que je n'y croyais plus.
Je me souviens très bien.
J'avais plus espoir du tout, j'avais plus rien, j'avais rien à m'accrocher surtout. Je me disais que voilà, la vie ne valait plus rien pour moi. J'étais désespéré, j'étais au fond et elle, cette femme, exceptionnelle, je dirais. Ouais. Le mot est peut-être fort, mais j'ai le superlatif, je ne sais pas lesquels prononcer parce que vraiment...
Non, mais on a bien compris, François.
Voilà,
comme quoi la vie est pleine de surprises et qu'il ne faut jamais dire jamais.
Exactement.
Chaque jour, les choses peuvent changer.
Ouais, c'est vrai.
Je suis chaque ravie jour. D'avoir eu de vos meilleures nouvelles ce soir, en tout cas. Vraiment,
ouais,
ça me
mais
fait
bon,
plaisir.
Je suis ravie de vous avoir et je vous apprécie énormément pour votre écoute, votre bienveillance, votre empathie, vos conseils qui sont toujours vrais, justes, sincère, sain. Et voilà,
c'est gentil,
dire des choses de
fort. Je fais de mon mieux. C'est très gentil.
Ouais, mais je vous adore. Vous êtes une très belle personne. Vous êtes une très, très, très belle personne aussi. Voilà. Ça s'appelle la beauté intérieure. Voilà, c'est tout.
Merci mille fois, François. Je vous embrasse très fort.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir, François.
À Sabine Marin sur Europe 1.
Thank you.
verriez Kelvin et Fanny, la régie d'Europe 1 s'est transformée en boîte de nuit. Never Going Home, c'était Kungs, comment ça se prononce d'ailleurs? Kungs, pardon. Ah, c'est beau d'être jeune.
Venez vous confier à Sabine Marin sur Europe 1.
Et c'est Ludovic que j'accueille maintenant sur notre libre antenne. Bonsoir Ludovic.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue à vous.
Voilà Sabine, moi j'espère que vous allez bien.
Ça va, voilà,
je vais vous raconter un peu une histoire. Depuis, ça s'est passé le 14 janvier dernier. Donc ma compagne a eu les lèvres qui sont devenues bleues et bon, j'ai appelé tout de suite le 15. Ils m'ont expliqué comment aller faire un massage cardiaque et les pompiers ont mis un peu de temps à arriver et n'ont pas réussi à la réanimer.
Et elle avait quel âge?
64 ans.
Pardon? Allô?
Donc,
je vous entends très mal, Ludovic.
Après, le SAMU a fait une injection de... Comment ça s'appelle? Avec une grande...
Adrénaline, non?
Oui, c'est ça, oui. Mm. Et le cœur est reparti. Mais quand j'avais fait les massages, je voyais que sa main devenait bleue, tout ça.
Attendez, expliquez, parce que je ne vous ai pas très très bien compris. Ça s'est passé en janvier, vous m'avez dit, c'est ça?
Oui.
Elle avait quel âge à ce moment-là?
Elle avait 64 ans.
64 ans, pas de problème particulier?
Bah si, on devait lui enlever un rein fin janvier.
D'accord, mais rien à voir avec le cœur?
Non, 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 non. Non, 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 non.
Il n'y avait jamais eu d'alerte, quoi?
Non, non, elle faisait un peu d'asthme, mais c'est tout, quoi.
Donc là, elle s'est écroulée devant vous, si j'ai bien compris?
Non, non, c'est pas ça, c'est que... j'étais à la cuisine, après je suis allé dans la salle à manger, parce qu'elle devait passer un IRM l'après-midi. Mm-hmm. Et quand je suis arrivé dans la salle à manger, elle avait les lèvres bleues, et je lui ai parlé, elle ne répondait plus. Et là, j'ai poussé un cri, et... C'est ce qu'on m'a raconté, parce que les voisins qui ont entendu ça, pareil, c'était terrible. Et j'ai fait le 15, aussitôt.
Oui.
Et on m'a dit, mais est-ce qu'il respire? Et on m'a dit, approchez-vous, et elle ne respirait plus. Donc après, ils m'ont expliqué comment faire un massage cardiaque. J'avais déjà fait, j'avais pris des cours de SST déjà. Mais
j'allais vous demander, parce que c'est super difficile, ça.
Bah oui. Je me rappelais plus, j'étais tellement...
Puis dans la panique et par téléphone, c'est épouvantable, ça.
Ah, et puis les semaines qu'on suivit, j'ai eu des douleurs terribles au ventre, etc. Donc là, mon médecin m'a envoyé voir pour faire une échographie. Ils n'ont rien trouvé aux organes, etc. Et il se pourrait que j'ai déclenché donc un ulcère, etc.
Ça s'appelle un stress post-traumatique, tout simplement.
Et puis bon, je vais voir une psychologue avec qui je suis bien avec, etc. Mais là, ça faisait quelques temps que bon, elle est partie en vacances, tout ça, donc c'est pour ça que je me permets de confier un peu à vous, Sabine.
Mmh. Mais racontez-moi la suite. Alors, les pompiers sont arrivés, ils ont amené votre femme?
Non, les pompiers sont arrivés. Ils ont essayé de faire le massage.
Oui, ils l'ont ramené à la vie, en tout cas.
Non, 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 ils n'ont pas réussi. C'est le SAMU qui était là dans les secondes qu'on suivit, parce que les pompiers ont mis du temps à arriver. Le SAMU est arrivé en même temps, quelques secondes, quelques minutes près. Et là, les médecins des SAMU, ils étaient quatre. Ils ont transpercé avec de l'adrénaline.
Mm-hmm.
Et le cœur est reparti.
Et le cœur est reparti. Est-ce qu'elle a eu des séquelles après?
Ben après, donc, ils ont débranché 3 jours après les machines parce que le cerveau ne répondait plus du tout.
Ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Non.
Elle a eu de la fièvre. Elle a eu de la fièvre et comme c'était difficile elle a pas voulu donc que j'appelle les urgences. On avait appelé un médecin remplaçant, et puis le médecin remplaçant avait dit, bon, bah, de toute façon, comme c'est vrai, elle devait voir le chirurgien le jour même, le jour où elle a eu le malaise cardio-pulmonaire. Elle devait voir le chirurgien dans l'après-midi.
Ouais.
Et au lendemain matin, je ne sais plus, oui, c'est le lendemain matin, je crois. Et donc, ce n'était pas urgent, quoi. Et le chirurgien... Le lendemain, il m'a appelé et il ne savait pas qu'elle était donc en réanimation. Et il m'a dit, mais je l'aurais opéré du rein fin janvier, mais quand elle est rentrée à l'hôpital fin décembre, je ne pouvais pas l'opérer du rein, monsieur. Elle serait restée sur la table, elle était trop fragile.
Trop faible, le cœur n'aurait pas supporté.
Oui.
Ouais.
Donc il avait laissé un peu de temps et puis il y a eu au mois de janvier en plus on était en difficulté parce qu'il y avait il y avait le Covid etc, c'était difficile, tout ça c'était un peu compliqué tout ça, donc mais l'opération devait être programmée fin janvier quoi.
Oui mais là vous...
en fait elle a eu du mal à respirer, elle a pris une bouffée de pour l'asthme.
Mm-hmm.
Et puis ça allait mieux. Et puis, tout à coup, les lèvres sont devenues bleues. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui lui arrivait. Et elle m'a dit, mais non, j'ai pas les lèvres bleues. Et puis après, elle a plus répondu. Et voilà, le cœur... d'après ce que le médecin m'a dit, les poumons étaient... le cœur s'est arrêté parce que les poumons étaient trop pris, quoi. Je ne saurais pas l'expliquer, mais ça m'a expliqué, mais je ne saurais pas le dire.
D'accord, j'essaie de comprendre bien la hiérarchie de ce qui s'est passé. Donc, elle a fait un arrêt cardiaque. Ils ont réussi à faire repartir le cœur, mais le cerveau n'est pas reparti.
Non, parce que le cerveau n'a pas été assez oxygéné.
Oxygéné pendant trop longtemps. Donc là, ils vous ont demandé quoi? L'autorisation de la débrancher?
Non, parce qu'en fait, moi, j'étais son compagnon depuis 14 ans avec elle, donc ils ont vu ça avec ses enfants. Mais moi, ça m'a traumatisé. J'étais seul avec elle quand ça s'est produit, et je la revois encore avec les lèvres bleues. Puis quand j'ai fait le massage cardiaque, je revois toujours sa main qui devient bleue. Je peux pas oublier une scène pareille, quoi.
Bah évidemment, en plus, c'est encore très, très récent. Mais comment ça s'est passé à l'hôpital? Ces enfants sont venus à ce moment-là? Ce que vous me dites, c'est qu'ils ont demandé l'autorisation aux enfants.
Bah oui. En fait, c'est des enfants qui étaient... parce que... Bon, moi, j'étais son compagnon depuis 14 ans, mais j'avais rien dans la famille, quoi.
Légalement, vous n'étiez pas son mari?
Bah non, légalement, c'est ce que m'a dit le réanimateur. Il m'a dit, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien vis-à-vis de la loi.
Non, enfin oui, c'est un peu sec dit comme ça, mais effectivement, légalement, vous n'avez pas de pouvoir de décision, on va dire.
Oui.
Et comment se sont comportés les enfants avec vous?
Moi, j'ai toujours bon contact avec sa dernière fille, et puis les autres, je ne sais pas. Maintenant, ils font leur vie. Hein.
Non, mais dans un moment aussi difficile que celui-là, je veux dire, comment c'était l'ambiance?
Waouh, oui. C'était compliqué, c'était compliqué.
Bon, et comment vous tenez debout, vous, depuis tout ça, Ludovic?
Bah bon, je... Quand je suis enseignant à domicile, donc je donne des cours à des élèves qui sont déscolarisés, donc j'arrive encore à... J'ai réussi à tenir mon emploi. Mmh. Et puis, j'ai, comme ma passion, c'est le dessin, la peinture, etc. Donc, j'ai réussi, je ne sais pas si je... Donc, quand il y a eu le confinement, mois de mars-avril, c'est ça, le troisième confinement, c'est ça? Au mois de mars-avril.
Oui, je crois, oui.
Il y a eu un confinement de un mois, je crois, décidé par le président. Donc, là, mon activité était suspendue, puisque je ne pouvais plus du tout. Ça a été suspendu un peu de temps, mais. Donc, j'ai créé une BD. Voilà, j'ai créé une BD.
Ah oui.
Ouais, j'ai fait une BD.
Quel genre de BD?
J'ai fait une BD pour la jeunesse.
Ah oui, donc rien à voir avec votre histoire.
Je sais pas, je peux pas. Peut-être que ça a à voir, mais je sais pas. Non, j'ai fait une BD.
Vous m'avez dit être suivi par une thérapeute, c'est ça?
Oui, j'y vais une fois tous les trois semaines après.
D'accord, mais là, elle est partie en vacances pour le mois d'août, c'est ça le...
Non, normalement, elle est revenue, là, mais moi, je pars, je pars quelques jours en vacances, là, la semaine prochaine.
D'accord. Quel genre de thérapie vous pratiquez avec elle? Comment ça se passe? C'est des séances pendant lesquelles vous parlez?
Oui, on parle et elle pose des questions et puis elle analyse et puis moi aussi je mets le courant pas bien. Ouais.
Bon, ça c'est important. Par contre, j'ai l'impression que le traumatisme est vraiment toujours là. Est-ce que vous m'avez déjà entendu parler de MDR? La thérapie par les mouvements oculaires.
Mais moi, je ne connais pas.
Vous devriez en parler avec votre psy, il y en a beaucoup qui le pratiquent. Sur un traumatisme comme le vôtre, ça pourrait vous apaiser, ça pourrait vous faire du bien. Aider le cerveau à retravailler ce trauma, si vous voulez. À apaiser toutes ces émotions. Qu'est-ce qui est le plus difficile là pour vous en ce moment, Ludovic?
Là, je trouve tout le temps à elle.
Oui. Et est-ce que vous êtes entouré? Est-ce qu'il y a des amis autour de vous?
Oui, j'ai des amis, oui.
Bon, vous n'êtes pas seul.
Je n'en ai pas beaucoup, mais j'ai des amis, oui.
Oh, des vrais amis, on en a rarement beaucoup, vous savez.
Oui, c'est vrai.
Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Donc c'est important, ne restez pas seul. C'est bien que vous puissiez prendre quelques jours de vacances. C'est bien que vous ayez une psy avec laquelle ça se passe bien. Mais vraiment, si cet état traumatique persiste comme ça, parlez-lui de la thérapie par les mouvements oculaires.
D'accord. Hein?
C'est en plus d'une thérapie classique, ça peut vraiment vous aider.
Et puis c'est cette main aussi qui... Cette main que j'ai vue bleue quand j'ai fait les massages, ça me reste encore. J'en vois encore cette main.
Est-ce que vous vous en voulez de ne pas avoir réussi? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la culpabilité chez vous?
Elle avait de la fièvre, on avait... J'avais appelé le médecin et le médecin il avait dit aller aux urgences, elle ne pouvait pas y aller. Et puis le médecin ne pouvait pas se déplacer, c'était un remplaçant. Et elle avait de la fièvre. Pendant 4-5 jours, elle a eu de la fièvre. Et puis après, le jour où la fièvre est tombée, le cœur, en fait, a...
Non, mais ce que je veux dire, Ludovic, c'est que vous comprenez bien que vous n'y êtes pour rien. Vous avez fait à chaque fois tout de votre mieux. J'ai l'impression que vous n'êtes pas convaincu de ça. Que vous, vous passez des scénarios un peu durs avec vous-même.
Je sais pas.
Vous avez fait ce que vous avez pu, de votre mieux à chaque fois. Malheureusement, le destin a été plus tragique que vous ne l'auriez espéré. Comment je peux faire pour vous aider, Ludovic? Parce que l'émission va se terminer.
Je sais pas. Vous avez parlé un peu. C'est mal, quoi.
Rappelez-moi, si vous voulez, cette semaine, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour se parler. Hein, si ça va pas, vous m'en rappelez. On parlera un peu d'elle, d'accord?
Merci.
Vous voulez bien?
Merci.
Je suis là tous les soirs cette semaine, d'accord?
D'accord.
Fanny et Kelvin sont au courant, ils vous prendront en priorité si vous me rappelez. D'accord, Ludovic?
Oui, d'accord.
Je vous embrasse.
Moi aussi.
Et vraiment, n'hésitez pas, rappelez-moi qu'on prenne plus de temps, d'accord? Bonne nuit, Ludovic. L'émission se termine. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve demain soir à partir de 22h15 pour une nouvelle Libre Antenne. Et je vous quitte avec la phrase du jour. Parfois, vous devez avoir été mis KO comme vous ne l'avez jamais été pour pouvoir vous relever plus grand que vous n'auriez jamais pu l'être. Passez une bonne nuit et à demain.